France Culture.
À voix nue avec
Alain Minc.
Épisode 2, le théoricien du libéralisme à la française.
Je récuse votre mot, le libéralisme à la française, parce que je me suis longtemps présenté comme un libéral de gauche. Parce que libéralisme à la française, vous pouvez dire que c'est Alain Madelin. Moi, j'ai une vision, au fond, dont le héros n'est pas un Français, c'est un Anglais, c'est Tony Blair.
Bonjour Alain Minc.
Bonjour.
Nous voici à nouveau dans votre bureau parisien situé non loin de la place de l'Étoile. Quand vous étiez à Saint-Gobain, directeur financier, vous preniez également la plume ?
Oui, le rapport sur l'informatisation m'avait montré que c'est assez rigolo. Écrire est amusant, et puis le chahut médiatique est aussi assez distrayant. Et donc j'ai écrit à partir de 82, grosso modo, un bouquin par an jusqu'à aujourd'hui.
Ce premier livre, après donc le rapport Nora Minc, était un livre qui a marqué parce qu'il évoquait l'après-crise.
Il s'appelait « L'après-crise est commencée ». C'était un livre immensément influencé par quelqu'un dont la lecture m'avait marqué à vie, qui était Fernand Braudel. La trilogie sur le capitalisme de Braudel, que j'estimais de loin être une des explications les plus pertinentes du monde contemporain. C'est-à-dire les trois niveaux de la vie économique, l'économie monde, l'économie de marché et l'endroit où la société et l'économie se mélangent. Et c'est d'ailleurs à la suite de ce bouquin que j'ai connu Braudel. Le bouquin commence d'ailleurs par un premier chapitre assez long, dans mon souvenir, qui est un résumé de Braudel. Et je suis allé voir Braudel de manière très humble, en lui disant « j'espère que j'ai pas fait une bêtise ». Vous voyez, c'est vraiment la visite du jeune débutant à la statue de la pensée historique française. Enfin, c'était une espèce de De Gaulle des sciences humaines, le père Braudel. Et étrangement, il me lit et il me dit « j'ai toujours eu envie qu'on utilise ma théorie comme une boîte à outils. Je vais vous aider à vendre votre livre. » Et donc, il a fait des débats avec moi pour vendre ma cam. C'est génial, quoi, le vieux Braudel qui prend un petit comme ça. Par exemple, j'ai expliqué dans ce bouquin que l'économie noire était un des moyens d'équilibre de la société, en particulier en prenant l'exemple italien. Et il en avait toujours été convaincu.
L'économie noire, vous voulez parler de quoi, Alain Minc ?
C'est-à-dire des échanges marchands non officiels. L'économie souterraine. Bon, quand vous faites venir vous-même un plombier qui vous dit « payez-moi en argent liquide », bien sûr, vous refusez. Mais s'il advenait que vous l'acceptiez, vous êtes dans l'économie souterraine. Donc, on a gardé jusqu'à sa mort une relation assez bonne, même très bonne.
Mais alors, on a brandi ce titre en disant « Alain Minc s'est trompé ».
Sur l'après-crise est commencé ? Oui, mais se tromper, je ne sais pas ce que ça veut dire. D'abord, vous savez mieux que quiconque qu'un titre est destiné à provoquer, quitte à être en partie faux par rapport au texte. Ce que je voulais dire, c'est que on entrait dans une période durable dont les fondamentaux économiques n'avaient rien à voir avec ceux de l'après-guerre terminés par la crise pétrolière la fin des années 70.
Marx est un auteur qui a beaucoup compté pour vous. Peut-être l'avez-vous lu, d'ailleurs, dès votre plus jeune âge, avec votre père communiste ?
Non, il ne m'a pas obligé à lire Marx. Je ne suis même pas sûr qu'il l'ait beaucoup lu lui-même, ni lui ni ma mère. Je me présente, alors ça fait coquet étant ce que je suis, évidemment. Je dis « je suis le dernier marxiste français ». Et j'ai même écrit, il y a 2 ans, un bouquin qui s'appelle « Ma vie avec Marx ». Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je pense que Marx est le seul penseur qui a réussi à penser en même temps l'économie, la sociologie, l'histoire et la philosophie. Ça fait beaucoup, hein ? C'est quand même une ambition globalisante qui est absolument unique. Alors, la question n'est pas de savoir Marx avait-il raison ou pas raison. D'abord, je pense qu'en partie des choses du marxisme demeurent entièrement vraies, y compris les classes, les conflits de classes. Ils ont changé de nature, mais j'y crois. Et c'est pour ça que je me sens tellement éloigné de ce que j'estime être l'horreur wokiste, c'est-à-dire cette espèce de chaîne de solidarité de toutes les victimes. Je crois qu'il y a des classes sociales, des groupes sociaux, même dont la composition a changé. Je crois que la dialectique, d'une certaine façon, telle qu'il l'a appréhendée, est en partie exacte. Et la social-démocratie est un produit de la dialectique, c'est-à-dire la dialectique entre une classe ouvrière représentée par des acteurs sociaux forts, comme en Allemagne, et un patronat, et que la dialectique peut conduire à des compromis. Après, je pense que le cheminement qui consiste à dire « on commence par Marx et on termine au goulag » n'est pas juste. C'est qu'après Marx, il y a Lénine, et que l'enchaînement, en effet, vient à partir de Lénine. Et puis, il y a quelque chose d'absolument fascinant dans la vie de Marx, que dans ce petit bouquin, j'essayais d'expliquer. D'un côté, c'est un théoricien exceptionnel, de puissance, et de l'autre, c'est un militant infatigable qui bâtit son international dont il est le secrétaire, qui s'occupe de conflits de pouvoir absolument minables avec la bande qui l'entourait, donc qui tenait les deux maillons de la chaîne et les deux maillons extrêmes, le militantisme de terrain et la théorie la plus globalisante possible. Ça fait un personnage totalement hors norme. À part ça, Marx était un sale type. Je veux dire, sa vie personnelle, son attitude à l'égard de sa femme, etc. Mais peu importe, un personnage historique peut être un sale type.
Mais on aurait pu attendre que vous soyez plus attaché, je ne sais pas, à Tocqueville, par exemple.
Mais je suis très attaché à Tocqueville. D'abord, Tocqueville écrit bien. C'est une jolie prose. Mais je veux dire, c'est pas une pensée globalisante. C'est une pensée qui analyse, en réalité, le fonctionnement institutionnel des sociétés. Il n'y a pas un mot d'économie chez Tocqueville. Il y a de l'histoire. Pas tellement dans la démocratie en Amérique, mais dans l'Ancien Régime et la Révolution. Avec une thèse, d'ailleurs, qui peut être un peu discutée, que la continuité passe à travers la Révolution comme si elle l'effaçait. Ce qui me paraît quand même excessif. Mais on peut aimer Marx, ça ne veut pas dire exclure les autres. Hein. Par exemple, j'ai écrit une biographie de Keynes. Keynes me fascinait beaucoup par sa vie. C'est peut-être lié à mon absolue anglophilie.
Qu'est-ce qu'elle a, sa vie, Alain Minc ?
La vie de Keynes, c'est un mélange de praticien un peu du pouvoir, de théoricien économique, de bohème, d'esthète. C'est un des fondateurs de Bloomsbury.
Un groupe intellectuel.
Groupe intellectuel qui, dans l'Angleterre post-victorienne, ouvre les fenêtres, en réalité. C'est le groupe dont Virginia Woolf est la figure emblématique. Et le même est celui qui, en 1919, comprend l'enchaînement fatal du traité de Versailles. L'immense erreur historique de Georges Clemenceau. Alors, Keynes fait une analyse économique de la folie du traité de Versailles, qui sont les conséquences économiques de la paix, etc. Mais il y a, à mon avis, une analyse historique à faire sur l'erreur du traité de Versailles. Il faut comprendre qu'on a traité l'Allemagne comme si on l'avait occupée en 1919. Or, quand l'Allemagne capitule en 1918, pas un pouce de son territoire n'est occupé par des forces adverses. Elle est encore en train d'occuper le territoire de son ennemi, y compris le nord de la France et l'est de la France. Un pays dont la population n'a pas senti l'occupation de son vainqueur est un pays qui ne pouvait pas accepter la dureté délirante des clauses du traité de Versailles.
Vous dites que vous situez donc dans le sillage de Marx, et cependant, un grand nombre de vos ouvrages, et c'est pour ça que je parlais de libéralisme pour vous présenter, même de théoriciens ou peut-être de praticiens du libéralisme, vont défendre la pré-crise, la mondialisation heureuse. Votre nom est attaché à cette représentation des choses, Alain Minc.
Oui, mais ça, bon, sont les raccourcis. Mais d'abord, il n'y a pas de plus extraordinaire description du fonctionnement de l'économie capitaliste que dans le manifeste communiste de Marx. Et d'ailleurs, avec un incroyable hommage de Marx à la classe des entrepreneurs. Donc l'espèce de dynamisme capitaliste, Elle existe chez lui.
Enfin, il y a moi, aussi les eaux glacées du calcul égoïste. Et...
Non, mais les eaux glacées du... Mais ça, c'est le capitalisme. Les eaux glacées du calcul égoïste existent. Si vous voulez, pour moi, le marché est un état de nature de la société. Et je pense que l'expérience soviétique, de ce point de vue, a été extrêmement révélatrice. À un moment donné, un pays a décidé de nier cette vérité qui, à mes yeux, est comme une loi de l'apesanteur. Et le résultat, on le connaît. Et quand Deng Xiaoping ouvre le jeu économique en Chine, avec ce raccourci qui est « peu importe que le chat soit blanc ou noir du moment qu'il attrape les souris », il dit dans son langage exactement ça. Après, le marché est l'état de nature de la société. Ça ne veut pas dire que le marché doit être seul. Le marché, sans la règle de droit, c'est la jungle. La règle de droit sans le marché, c'est le totalitarisme bureaucratique. Donc le problème, c'est l'équilibre entre le jeu du marché et la règle de droit. Et au fond, ça a été le credo qui a toujours été le mien et qu'il restera.
Vous n'avez pas seulement été un théoricien de l'économie et du capitalisme à la main, que vous avez commencé à travailler à Saint-Gobain et puis vous êtes allé dans beaucoup d'autres entreprises.
Non, après j'ai rejoint un grand tycoon qui était un personnage emblématique de la scène italienne, qui s'appelait Carlo de Benedetti, qui était un conquistador capitaliste comme il en existe, avec lequel j'ai travaillé pendant 5 ans. Et on a essayé de bâtir un groupe pan-européen. Et on a vécu un épisode très lourd, mais très révélateur. On a essayé de prendre le contrôle de la Société Générale de Belgique, qui était une institution capitaliste quasi caricaturale qui contrôlait une part majeure de l'économie belge. Les forces conservatrices qui étaient en face de nous ont gagné. On a été battu par 52 contre 48% et on n'a pas pris le contrôle de cette société. Après, on est entré dans ces instances dirigeantes parce que là, c'est la différence entre le jeu économique et le jeu politique. Vous gagnez une élection politique à 52, vous avez tous les pouvoirs. Vous gagnez une bataille économique à 52, la capacité d'emmerdement qu'à celui qui a 48 fait que vous devez trouver un compromis. Mais on avait été battu. Mais cela dit, ça a été une expérience dont les Belges se souviennent encore. On a foutu un bordel dans ce pays qu'est la Belgique qu'on n'aurait jamais imaginé foutre. D'ailleurs, si on avait pensé que ça atteindrait ce point-là, je suis pas sûr que nous n'aurions pas renoncé.
C'était l'erreur d'Alain Minc, le fait que vous ayez perdu.
Oh, mais des erreurs, j'en ai fait plein, hein. Je peux vous en citer tête à d'autres.
Lesquelles?
C'était l'erreur. J'ai proposé à Benedetti de faire cette opération. Il l'a validée. J'ai entraîné dans cette affaire quelqu'un qui appartient à la scène intellectuelle française et qui était à l'époque mon adjoint, qui était François Sureau. On a fait une très mauvaise affaire sur le plan capitaliste et on s'est prodigieusement amusé sur le plan de la vie de la société. C'était vraiment mettre un cocktail Molotov sur la table du salon des bourgeois. Hein.
Mais l'une des idées à la main consiste à dire, c'est un théoricien mais en praticien des affaires... C'est pas fait.
Non, ça dépend de ce qu'on appelle praticien des affaires. Après, j'ai décidé de créer ma société de conseil pour une seule raison, c'est que vous pouvez pas diriger une entreprise en vous exprimant dans le débat public. Par exemple, Michel Rocard m'avait sollicité pour éventuellement prendre la tête de Total. Mais il m'avait dit immédiatement, et il avait raison, bien évidemment, vous ne vous exprimez plus dans le débat public. Donc après, c'était un choix de vie. Et le désir de mener une vie plurielle supposait que je reste indépendant. Donc j'ai bâti ma société de conseil en 91 et qui correspondait assez bien à ce que je suis. C'est-à-dire, gérer le quotidien d'une affaire m'emmerde. Inventer les mouvements qui font bouger la vie des affaires m'amuse. Et ça, je crois que j'ai à peu près su le faire.
Pourquoi avez-vous fait d'emblée tout cela à la main, pourquoi décider donc d'être dans les affaires, d'écrire des livres, d'avoir aussi une parole médiatique?
Par un concours de circonstances et par une espèce de goût de la distraction pascalienne élargie. D'où en effet le fait que j'ai eu une présence médiatique, y compris les années que j'ai passées au Monde, et donc 14 ans à la présidence du Conseil du Monde.
Mais bien évidemment, tout le monde vous disait, peut-être même votre voix intérieure, que vous en faisiez trop.
C'est un choix de vie. Ou vous décidez d'aller au bout sur votre segment, ou vous dites « je joue sur plusieurs tables », qui est un choix épicurien, et vous devenez pas numéro un sur votre segment. Bon, c'est peut-être un choix hédoniste, mais enfin, ça fait tellement d'années que je l'ai fait, que c'est pas maintenant que je vais changer. Hein.
Un choix hédoniste, j'imagine que vos journées sont longues.
Non, mais justement, mais je fais des choses très différentes, et j'ai une chance, en réalité, dans la vie. Au fond, j'ai la chance de ne rencontrer que des gens intelligents, à la fois dans le business, à la fois dans la vie médiatique, dans la vie intellectuelle, et ça, je trouve, c'est un privilège incroyable. Alors, des gens intelligents, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas fous, ça ne veut pas dire qu'ils sont des personnages kantiens à la morale incontestable, mais sont des gens intéressants. Par exemple, dans mon dernier bouquin, j'ai fait un certain nombre de portraits, dont un portrait qui a surpris beaucoup de gens, de Bernard Tapie.
Oui, vous expliquez que vous avez eu, disons, des relations contrastées avec lui.
Non, mais il y a eu deux temps. On s'est beaucoup engueulé par livre interposé à une époque. Et puis, un jour, cet homme m'appelle et me dit « j'ai un sale cancer, je vais mourir. Je veux me réconcilier avec les gens que j'estime et avec lesquels je suis fâché. Est-ce que tu veux venir me voir ? Pourquoi tu ? Parce qu'il tutoyait tout le monde. » Je lui dis « oui, bien évidemment. » Et donc, je l'ai vu. Et je l'ai, pendant les dernières années de sa vie, vu presque toutes les deux semaines, de manière très régulière. Et la manière dont cet homme a géré la fin de sa vie m'a bluffé.
Pourquoi ?
Parce qu'il a été à la fois d'un courage face à la maladie, et la manière dont il a utilisé sa notoriété pour s'adresser aux autres malades, en faisant de sa propre trajectoire un exemple pour eux, chapeau, je souhaite à chacun de mourir comme il est mort. Alors il y avait le Tapie tel qu'il était. Je lui dis un jour, au fond, t'as commencé comme Mandrin et tu termines comme Saint-Vincent de Paul. Manque de chance, je crois qu'il ne connaissait ni Mandrin ni Saint-Vincent de Paul. Donc il n'a pas pu percevoir ce que je voulais dire. Mais c'est un peu vrai.
Mais vous aviez, je ne sais pas, une fascination pour le côté un peu bandit de Tapie que Mitterrand avait ?
Non, le Tapie que j'ai connu, c'est le Tapie post-bandit. Non, le Tapie bandit, pour moi, c'est pas un grand entrepreneur du tout. Bon, je pense que il a dépecé beaucoup de cadavres économiques. C'est d'ailleurs à cette époque qu'on s'envoyait des beignes par bouquins interposés. Mais le Tapie que j'ai connu, c'était un malade gérant la maladie tout en gardant une énergie extraordinaire. Je suis convaincu que si l'agencement des temps avait été autre, il y a un seul homme qui aurait pu maîtriser Tapie, c'était François Mitterrand. Je pense que François Mitterrand, avec son œil de lynx, avait repéré chez Tapie une énergie hors du commun, et je pense que ça aurait été un tandem politique hors de pair.
Vous avez fondé une famille.
Bah oui, qu'est-ce qu'il y a d'atypique ? Voilà, oui.
J'aurais aimé quelques mots au sujet de cette famille.
Mais je parle peu de, j'aime pas entrer sur des terrains personnels. Je suis marié, j'ai 3 enfants et 8 petits-enfants. Voilà, je suis chef de tribu. Sur nos 3 enfants, un vit avec sa famille en France, une vit avec sa famille en Angleterre et le troisième vit avec sa famille aux États-Unis. Et ça, c'est une expérience extrêmement intéressante de regarder à travers les systèmes éducatifs auxquels sont confrontés nos petits-enfants, mais aussi le face-à-face entre des familles et l'environnement social, cette espèce de comparaison permanente faite cette fois-ci à la base, même si tous vivent dans une grande aisance bourgeoise.
Qu'est-ce qu'ils font ?
Notre fils aîné est dans l'univers des médias, notre fille est dans l'univers financier, et notre fils cadet est dans la pub Internet. Voilà. Mais je vous en ai dit assez pour la famille.
Votre femme ne vous a jamais dit de moins travailler ? Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle travaille plus que vous.
Je pense que toute ma tribu sait que si j'arrêtais de travailler, je deviendrai invivable. Moi, c'est pas ce que je pense. Je pense que comme tous les gens de mon âge qui arrêteraient de travailler, je deviendrais un légume. Ça, je trouve ça terrible, si vous voulez. Il faut surtout pas arrêter. Hein. J'ai vu trop de gens quitter des fonctions importantes. Et puis, au bout de 6 mois, ils vous parlent que de leur handicap au golf. Et puis, au bout de 12 mois, ils m'aiment plus leur handicap au golf. Hein. Non, je suis sur une doctrine qu'a exprimée très bien un jour dans un entretien au Point mon ami Jérôme Sédou, quand il a dit « Je suis partisan de la doctrine de Molière, mourir en scène ».
Le fait donc d'avoir eu une existence publique très importante, est-ce que cela vous a fait regretter de ne pas avoir été suffisamment présent avec...
Si, je crois que j'étais un très bon père et que je suis un bon grand-père. J'avais organisé ma vie d'une manière telle où je rentrais tous les soirs, quand j'étais à Paris, à 7h du soir. Non, ça, je crois que mes enfants n'ont pas souffert de ça. Ils ont pu souffrir, mais ils l'ont bien géré, de la notoriété. C'est-à-dire que je n'ai appris que beaucoup plus tard que, par exemple, ma fille, quand elle passait le concours de l'ESSEC, les trois ont fait l'ESSEC, au grand oral, pendant les deux tiers du grand oral, on l'a interrogé sur moi. Ça, je trouve que c'est honteux, honteux. Voilà, mais je crois que bon, ça les a pas traumatisés, ils ont bien géré ça, et puis voilà.
Je ne peux pas faire la liste des conseils d'administration où vous avez été...
Sévi.
Le nombre d'entreprises est assez colossal, et puis alors, ça va jusqu'à des entreprises comme la Fnac, jusqu'à Yves Saint-Laurent, jusqu'à la Sofres, enfin bref. Qu'est-ce qui relie toutes ces entreprises entre elles, Alain Minc, en dehors de vous, bien sûr?
Vous savez, les gens viennent vous chercher pour des conseils. Maintenant, j'ai plus de conseils, parce que j'ai trop connu les conseils d'administration. Ils viennent vous chercher, c'est plus ou moins intéressant. Enfin, ça dépend. Les conseils d'administration de sociétés cotées en bourse sont devenus régis par des règles tellement compliquées, tellement strictes, qu'on passe plus de temps à gérer des problèmes juridiques qu'à parler des problèmes des entreprises. Enfin, on va pas parler de la corporate governance à l'américaine qui a conquis le monde. Je pense pas que ça vous intéresse.
Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est Alain Minc. Mais justement, dans ces conseils d'administration, qu'est-ce que vous y avez fait?
J'ai fait beaucoup comme conseil d'entreprise dans mon activité de conseil. Dans les conseils d'administration, enfin, c'est un mythe, les conseils d'administration. Vous faites beaucoup de figurations pour entériner des décisions auxquelles vous participez, mais qui sont prises en dehors même des conseils.
Alors pourquoi y participer dans ce cas-là?
Parce que c'est participe des rites du club, voilà.
Mais justement, ce club, est-ce que le nombre d'entreprises auxquelles vous avez participé directement ou indirectement ne fait pas de vous l'un des piliers du club?
Je suis pas un des piliers du club, mais je suis, disons... une des petites tours de contrôle, pas par le contrôle que j'exerce, mais parce que je sais beaucoup de choses, je connais beaucoup de situations du monde capitaliste, oui, je suis un bon observateur, acteur du monde capitaliste.
Ça veut dire que vous avez connu à peu près tous les patrons d'Albert Frère?
Oui, je connais à peu près tout le monde, j'ai connu tout le monde, oui.
Alors dites-nous un mot sur tout le monde.
Ben, j'ai mes préférés, j'ai ceux que j'aime.
Pierre Berger, peut-être.
Non, celui dont je suis le plus proche, c'est François Pinault. C'est-à-dire, j'ai eu d'intimité vieille de 35 ans avec François Pinault, qui déborde de beaucoup le monde des affaires, avec de ma part beaucoup de fascination pour cet itinéraire incroyable. Je suis allé avec lui dans son village natal au fin fond de la Bretagne. Et quand vous voyez tout le parcours jusqu'à la bourse de commerce, sa position dans le marché de l'art, c'est un personnage hors norme. Alors on avait une espèce de dialectique de celui qui est dénué de diplôme, mais qui est d'une intelligence prodigieuse, et de celui qui est couvert de diplôme et qui est certainement beaucoup moins entrepreneur et imaginatif qu'il peut l'être. Voilà, j'ai certains d'entre eux dont je suis très très proche. Bon, Pierre Berger, c'est une amitié, mais c'est pas qu'un homme d'affaires, on a été très liés.
Vous avez partagé des bureaux avec lui?
Oui, j'ai partagé des bureaux, j'étais trustee de Saint-Laurent avec un autre de mes amis parce qu'il n'avait pas d'héritier à un certain moment. Mais je peux vous en citer beaucoup d'autres. Et puis il y en a un dont j'étais très proche et dont je me suis séparé de mon fait. Pour une raison qui tient à vous, les journalistes, et qui s'appelle Vincent Bolloré.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Vincent Bolloré?
Parce que quand il est entré dans les médias, et qu'il a commencé à prendre le contrôle d'organes de médias, je lui ai envoyé une lettre manuscrite pour lui dire « Les journalistes sont insupportables et irremplaçables. Toi, tu considères qu'ils ne sont qu'insupportables. » Ça, c'est un désaccord fondamental. Voilà. Et donc, je ne voulais pas être lié à la manière dont il contrôlait des médias. Et c'était avant son virage idéologique et la croisade politico-idéologique qui est désormais la sienne.
Pourquoi ? Parce que vous pensez que c'est un virage ?
Oui, la partie idéologique, oui. J'ai connu un Bolloré qui était un catholique conservateur bourgeois classique, qui n'a rien à voir avec le croisé aujourd'hui se donnant à lui-même une mission. Alors c'est assez chic d'avoir mis fin à ses relations avec Vincent Bolloré dans le monde des affaires, donc je suis assez fier. Mais on a fait beaucoup d'affaires ensemble, beaucoup.
Mais ça veut dire quoi, faire des affaires ?
C'était par exemple, je lui ai amené une idée en disant « on va essayer de prendre le contrôle de cette boîte ». Alors dans certains cas, il disait non. Dans 6 ou 7 cas très visibles, il a dit oui, on a fait ça ensemble. Ça a été hautement profitable pour lui, raisonnablement profitable pour moi. C'est le jeu du capitalisme. Je vous donne un exemple, parce que je ne veux pas entrer dans des secrets des affaires. Je l'ai convaincu de prendre le contrôle d'Havas, au nom d'un certain nombre de raisonnements. Bon, il a toujours Havas en contrôle. Non, on a fait des jolis coups, on s'est bien amusé.
Justement, si un auditeur a envie, par exemple, de faire appel à vos services...
Non, mais ça va, ma clientèle est close. Mes revenus sont publics, ma feuille d'impôt l'est, après je ne vais pas entrer dans la mécanique. Mais avec Bolloré, c'est simple, j'avais 1% des plus-values que je lui faisais faire. C'était énormément d'argent pour lui, mais c'était beaucoup d'argent à mon échelle, beaucoup. Voilà. Non, mais mon boulot de conseil d'entreprise, c'est un boulot qui mêle la stratégie, un peu de finance, mais qui est aussi un boulot de psy ou de curé.
Justement, je m'adresse aux psys et aux curés. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces gens-là ?
Il y a deux catégories, en réalité. Il y a les entrepreneurs et les managers. La différence entre un entrepreneur et un manager est à peu près aussi grande qu'entre le chromosome mâle et le chromosome femelle. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont une vision du monde, une vision de l'action, une vision de la manière d'organiser leur vie totalement différente. Et ça, on l'a au départ. C'est-à-dire, je ne crois pas une seconde qu'on devient entrepreneur à 45 ans ou à 50 ans. Quand on est entrepreneur, on l'est à la limite quand on échange des billes avec des copains au lycée. On l'est à 20 ans. Il y a quelqu'un qui est dans le jeu capitaliste français, que j'accompagne depuis ses débuts et dont je suis très proche, qui est Stéphane Courby. En réalité, il est né entrepreneur. Pinault, il est né entrepreneur. Les managers, c'est différent. Les managers, d'abord, sont tous très diplômés, ont suivi des cursus, sont parfois très, 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 très bons, mais sont adaptés à des organisations, sont adaptés à l'ordre. Je dis souvent d'un entrepreneur que c'est pas un bourgeois. Alors on dit pas possible, ils sont tellement riches. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'un bourgeois a peur de ce qui perturbe l'ordre. Un entrepreneur croit que c'est ce qui perturbe l'ordre qui lui fera faire du profit. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le profit pour un entrepreneur ? C'est pas l'argent pour l'argent. Parce que bon, ils en ont tellement que ça n'a aucun sens. Et même s'ils bouffaient du caviar de 6h du matin à 24h, c'est pas comme ça qu'ils dépenseraient leur argent. Je pense très profondément que la relation à l'accumulation primitive, comme disait mon vieux papa Marx, la relation à l'accumulation primitive est une façon de conjurer la mort. Je pense que les entrepreneurs ont une relation exacerbée à la mort et qui la conjurent par l'accumulation. Enfin, pour autant qu'on puisse conjurer la mort. Bon, les managers, pas du tout. Ils ont peur de la mort comme tout le monde. Bon, ni plus, ni moins. Bon. Voilà, ça, c'est une immense différence. Et donc, le type de relation que vous avez avec les uns ou les autres n'est pas de même nature.
Merci, Alain Minc.
C'était À Voix Nue avec Alain Minc. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Prise de son, Julien Girard. Chargé de programme À Voix Nue, Daphné Abgral. Une série de Guillaume Erner, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.